Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour, bienvenue à tous dans ce grand jury et dans ce grand studio de RTL. Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui et à mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion.
Bonjour. Bonjour.
Et Amélie Carouer de TF1 LCI. Bonjour.
Bonjour.
Amélie.
Bonjour.
Cette émission est bien sûr en direct. Vous pouvez donc réagir sur les réseaux sociaux, hashtag le grand jury. Et vos questions, vos interpellations, eh bien, seront posées à Marine Le Pen en fin d'émission par Marie-Pierre Haddad. Alors Marine Le Pen, vous êtes à ce jour l'une des rares personnalités politiques officiellement déclarées à l'élection présidentielle de 2022. Vous êtes donc d'une certaine manière déjà en campagne. Votre opposition d'aujourd'hui au gouvernement sera, on l'imagine, la matière de vos propositions demain. Il est donc important de vous entendre, notamment en matière de santé publique, car la pandémie est plus que jamais le quotidien des Français, avec une seconde vague du Covid-19 qui pourrait être plus grave, nous dit-on, que la première. Alors, faut-il reconfiner ou imposer seulement un reconfinement aux plus fragiles d'entre nous? Plus globalement, aux responsabilités, que feriez-vous de différent? Nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission. Autre sujet d'actualité, bien sûr, la lutte contre le radicalisme islamiste. Vous alertez depuis longtemps Marine Le Pen sur ces dangers, mais aujourd'hui, ce qui importe les Français, ce sont les solutions. Et si l'on en croit notre sondage BVA, ils ne vous font pas davantage confiance qu'à Emmanuel Macron pour l'affronter et en sortir. Nous allons longuement y revenir en essayant d'être le plus concret possible. Vous avez ainsi plaidé, Marine Le Pen, pour une législation de guerre. C'est tout sauf anodin. Nous allons y revenir. Et la première question vous est posée par Amélie Carouer.
Et justement, dans le cadre de ces déclarations, pour être très concret lors de cette émission, est-ce que pour vous, il faut s'en prendre au Conseil constitutionnel? Parce que désormais, il prendrait trop de place.
Non, je pense qu'il faut d'abord mettre en place un opting out avec sur la Convention européenne des droits de l'homme. Car en réalité, le Conseil constitutionnel, bien souvent, se fonde sur une interprétation, sur une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, c'est vrai, dans beaucoup de cas, nous empêche de nous protéger des terroristes ou de les éloigner du territoire, ou nous oblige à leur accorder des droits à la vie familiale, par exemple, qui pose un souci majeur en termes de protection du peuple français.
Ça veut dire sortir
d'un certain nombre d'articles de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est ce qu'a fait le Danemark, c'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne, c'est ce qu'a fait de mémoire l'Irlande, et qui consiste à dire à la Convention européenne des droits de l'homme, en matière d'immigration, en matière régalienne de maîtrise de l'immigration dans toutes d'ailleurs ses composantes, eh bien la nation française doit être absolument souveraine.
Ça veut dire que les droits de l'homme, ça devient un peu secondaire dans le cadre d'une législation de guerre, Marine Le Pen ?
Non, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de jurisprudences qui ont été émises par les juridictions dites supérieures, qui sont aujourd'hui, qui correspondent aujourd'hui à une mise en danger du peuple français. Voilà. Lorsque un terroriste qui a tué sur notre sol sort de prison et que l'on nous interdit de le renvoyer dans son pays d'origine au motif qu'il pourrait y subir des mauvais traitements ou qu'il pourrait là-bas être jugé selon des normes qui ne sont pas les normes du droit européen, je pense que c'est une mise en danger du peuple français. Mais, et donc, il faut, pour préserver le peuple français, eh bien dire à ces structures, à la Cour européenne des droits de l'homme, tel article, nous ne pouvons les appliquer,
si car
ils ne nous permettent
pas de renvoyer dans un pays en guerre, comme la Syrie ou la Libye. Gérald Darmanin a dit que c'était la ligne rouge, qu'on ne pouvait pas renvoyer dans un pays en guerre. Vous pensez que oui?
Je pense tout à fait que oui.
On les renvoie en Syrie ou en Libye?
Oui, d'autant si ces gens font la guerre sur notre sol. Encore plus, si je puis me permettre. La question se pose, et elle se pose de manière très aiguë, car il y a, je crois, une quarantaine de djihadistes qui vont sortir de prison d'ici la fin de l'année. Il y en a 254 qui vont sortir de prison, condamnés, de nos prisons, d'ici la fin 2022. La question est, qu'est-ce que l'on fait de ces gens-là?
Alors, on va y revenir, mais quand même, tout d'abord, une question
sur le Conseil. Pour revenir au Conseil constitutionnel, est-ce que, encore une fois, cette juridiction prend trop de place? Bruno Maigret s'exprimait dans une interview au Point, et il explique que si vous accédiez à l'Élysée sans toucher au Conseil constitutionnel, ce serait comme Donald Trump qui écrit des tweets. Mais est-ce que le Conseil constitutionnel est trop encombrant aujourd'hui?
Je ne savais pas que Bruno Maigret était encore dans la vie politique. Il me semblait qu'il avait été, je crois, exclu du Front National il y a 20 ans. Donc vous l'avez fait sortir de sa retraite. Vous l'avez fait sortir de sa retraite.
Comme chacun peut le faire.
En revanche, on peut réfléchir à ce que le Conseil constitutionnel puisse être composé d'autres choses que les anciens présidents battus de la République, qui ont évidemment une vision politique qui m'apparaît en contradiction avec cette instance. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien considérer que le Conseil constitutionnel doit être composé de grands magistrats, certains venant du Conseil d'État, certains venant de la Cour de cassation, certains même, évidemment, peuvent être nommés par le président de la République, mais voir, si vous voulez, des anciens présidents de la République siéger pose quand même, à mon avis, une difficulté. Mais excusez-moi, je ne veux pas remettre en cause votre interrogation, et non pas interrogatoire, votre interrogation, mais pourquoi part-on sur un sujet aussi important que l'islamisme par le tout petit bout de la lorgnette?
Parce qu'il s'agit aussi
est-ce que vous me permettez juste deux minutes,
pas plus.
Je vous demande pas plus de deux minutes. Parce que personne ne comprendra ce que je souhaite faire si je ne peux pas exposer, au moins de manière un peu générale, la vision que j'ai de la guerre qui nous est menée sur le territoire. Une guerre nous est menée et nous devons mener cette guerre. Cette guerre, nous ne la menons pas contre un État, nous la menons contre une idéologie. Cette idéologie, c'est l'islamisme. Déjà, il faut accepter que nous soyons en guerre contre l'islamisme. Si nous sommes en guerre, alors il faut déclarer cette idéologie ennemie de la France. Et de cette déclaration, il va falloir que découle toute une série, évidemment, de décisions, notamment interdire les organisations qui feront la promotion de cette idéologie. Alors, bien sûr, on pense tous au CCIF, mais pas seulement. Moi, je pense aussi à l'UOIF. Fermer les mosquées qui prêchent cette idéologie. Supprimer tous les financements qui viennent au soutien de cette idéologie. Expulser les étrangers qui professent, qui soutiennent, qui font l'apologie.
Pardonnez-moi,
je vous ai demandé deux minutes, monsieur Sportouche, je comprends bien que ça vous pose un problème.
Honnêtement,
deux minutes sur une interview, c'est pas considérable. Encore une fois, expulser les étrangers qui viennent au soutien de cette idéologie par n'importe quelle manière. Déchoir de la nationalité les doubles nationaux qui professent, défendent ou font l'apologie de cette idéologie. Et quant aux Français, vous le savez, je suis pour rétablir l'indignité nationale et les poursuivre pour intelligence avec l'ennemi, parce que je pense que la dégradation nationale, qui est la peine de l'indignité nationale, les permet de les mettre totalement au banc de la société. Mais il va falloir aussi lutter contre l'islamo-électoralisme.
Ça fait beaucoup de choses, mais on va revenir progressivement.
Il faut mener une guerre contre un ennemi. Sur la désignation de l'ennemi, c'est important. Vous dites l'islam. Dans vos rangs,
l'islamisme.
D'où ma confusion, vous allez comprendre. D'accord. Jean Messia, qui est délégué études et arguments du Rassemblement National, a tweeté « La décapitation du malheureux professeur n'est pas le fait d'une cellule terroriste, mais un acte d'un musulman en colère. » Est-ce qu'il y a un problème avec les musulmans ou vous prenez vos distances avec ce type de...
Non, mais je l'ai dit 100 fois, je peux le dire 100, une fois, ça ne me pose aucun problème. Je ne crois pas qu'il y ait une religion qui soit incompatible avec la République française. Je pense qu'il y a des comportements individuels et qu'il existe une idéologie auquel adhèrent des individus. Et moi, c'est contre cette idéologie que je veux me battre et c'est contre les individus qui sont les soutiens sur notre territoire de cette idéologie, qu'ils soient étrangers, binationaux ou français, que je veux me battre.
C'est aussi simple que cela.
Donc, existe-t-il des musulmans en France qui respectent totalement les valeurs de la France, qui vivent sans vouloir imposer un islam politique? Oui, bien sûr. Je vous réponds de la manière la plus claire qui soit. Et j'en appelle à eux d'ailleurs, parce qu'après tout, ils doivent venir aussi participer au combat contre l'islamisme, qui est une idéologie qui s'attaque aux musulmans laïcisés, aux chrétiens, aux athées, à tous ceux qui n'acceptent pas de se soumettre aux règles religieuses de l'islam politique.
Quand Jean Messia dit cela, qui est quand même un
Son avis. ça n'est ni le mien, ni celui du Rassemblement National, mais Jean est un Égyptien copte, peut-être a-t-il sur ce sujet une sensibilité exacerbée.
Quand vous utilisez le terme d'islamo-électoralisme, qu'est-ce que vous entendez? Que certains partis ou certains élus...
D'origine, bien sûr.
Utilisent ce combat contre l'islamisme pour récupérer des voix, c'est ça que vous êtes en train de dire?
Oui, bien sûr.
Et vous
le dis très clairement, j'entends le gouvernement parler d'islamo-gauchisme, la réalité, c'est qu'il y a eu aussi de l'islamo-droitisme. C'est-à-dire que toute une série d'élus, et pas des moindres, se sont compromis dans des relations avec le fondamentalisme islamiste, avec les organisations qui portent cet islamisme pour des raisons purement électoralistes.
Donc vous dites aujourd'hui
c'est
qu'il y a une
fait...
visée derrière...
Pardon ?
Donc vous dites aujourd'hui que ce qui est fait actuellement... n'est à la fois pas la réponse et qu'il y a une visée électoraliste derrière.
Mais il est sûr que, si vous voulez, subventionner l'UOIF, accorder aux mosquées salafistes des baux emphytéotiques pour 1 euro, c'est ce qui a été fait depuis 30 ans dans notre pays par des élus de droite comme de gauche. Alors, ils se sont trompés. Ils peuvent aujourd'hui venir dire « je me suis trompé ». Mais je n'ai pas entendu un seul mea culpa, moi. Vous voyez, j'ai entendu beaucoup de gens qui aujourd'hui viennent dire la même chose que moi. Pardon, je n'ai pas beaucoup entendu à l'Assemblée nationale, par exemple mercredi, aux questions au gouvernement, je me suis dit « il y en a bien quelques-uns qui vont se lever et qui vont dire « bon ben voilà, nous n'avons manifestement pas mesuré l'ampleur et la gravité de cette idéologie islamiste sur notre territoire. Pas un ne l'a fait. Pas un.
Marine Le Pen.
Et ceci me permet de penser qu'il y a une forme d'absence de sincérité. Car encore une fois, on peut se tromper. Mais la première des choses quand on se trompe, c'est venir dire « je me suis
Alors,
trompé ».
Alors, vous dites, ce que vous dénoncez, c'est une forme d'islamo-gauchisme, si on vous entend bien.
Et le mot, c'est-à-dire que quand ça vient de gens de droite, c'est pas d'islamo-gauchisme.
Alors, le mot collabo a été tagué samedi sur le siège, hier donc à Paris, du Parti communiste. Un acte que Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français, a attribué à l'extrême droite. Qu'est-ce que vous lui répondez à Fabien Roussel?
Je lui réponds que ces accusations sont purement gratuites, mais il a le cuir mince, Monsieur Roussel lui-même, qui a traité de collabo pendant 40 ans tous ceux qui étaient en désaccord avec le Parti communiste. Vous voyez ? Alors,
dénoncez ce tag ou pas ?
Non, je ne dénonce pas, j'en suis pas l'auteur. Voilà. Il faut argumenter. Voilà. Il faut débattre avec des mots, avec des idées, pas avec des injures. Il n'en demeure pas moins que la gauche a eu à l'égard de l'islamisme un comportement pour le moins complaisant. Et par conséquent, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui cette réaction qui est une réaction peut-être outrancière, mais qui s'appuie sur un véritable reproche que l'on peut faire à la gauche.
Mais vous dites, ils ont ce qu'ils méritent ?
Oui, enfin, faut pas exagérer, il leur est rien arrivé, c'est juste un tag sur un mur. Il faut pas non plus prendre ça comme s'il s'agissait, encore une fois, d'une agression. Mais dans le comportement qu'ils ont eu, oui, je crois qu'ils ont en partie aidé l'islamisme à s'installer dans notre pays. Je le dis très calmement, et encore une fois, il ne tient qu'à eux de changer totalement leur fusil d'épaule et de venir combattre avec les Républicains contre cette idéologie totalitaire qu'est l'islamisme.
Marine Le Pen, pour revenir à vos propositions, dans le cadre d'une législation de guerre, vous dites qu'il faut étendre la légitime défense. Qui cela concernerait-il ? Est-ce que ça veut dire que, comme ça se passe aux États-Unis, est-ce qu'il faut permettre que les Français soient armés s'ils sont victimes ou pensent être menacés par une attaque ?
L'armement n'a strictement rien à voir avec la légitime défense. Vous le savez, je plaide depuis très longtemps pour qu'on mette en place une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Mmh. Et c'est cela, évidemment, auquel je fais référence. Mais là encore, on prend cette proposition un peu par le petit bout de la lorgnette. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une législation de guerre, c'est-à-dire une législation d'exception qui soit votée par le Parlement et qui puisse s'appliquer à la lutte contre l'islamisme. Ça veut dire une cour de sûreté de l'État. Il faut rétablir une cour de sûreté de l'État. Il faut des magistrats qui soient des magistrats spécialisés pour lutter contre l'islamisme, parce que il faut qu'ils puissent évidemment être formés et notamment pour pouvoir supporter les pressions que certains ne manqueront pas de faire peser sur eux. Laissez-moi terminer une phrase, monsieur Sportouche.
Je vous pose la question, les cours d'assises spéciales.
Non, je ne vais pas vous répondre tant que je n'aurai pas terminé ma phrase.
Je vous écoute.
Je suis désolée.
Mais il y a quand même ces cours d'assises.
Et il y a évidemment des mesures sur le plan pénitentiaire, qui sont des mesures spéciales. Nous les réclamons depuis des mois et des mois, particulièrement, il faut bien le dire, pour éviter les agressions de gardiens comme on a pu en voir par des islamistes dans les prisons. Il faut aussi une législation pénale qui soit particulière, par exemple sur la durée des gardes à vue, par exemple sur les visites domiciliaires, c'est-à-dire les perquisitions, etc., etc. Vraiment, il faut qu'on se donne l'intégralité des moyens pour pouvoir lutter, encore une fois, contre
je vous repose la question des cours d'assises spéciales, elles existent. Vous nous dites la Cour de sûreté de l'État. Donc, ce n'est pas suffisant.
Non, parce que vous parlez encore une fois des cours d'assises spéciales pour le terrorisme. Mm-hmm. Donc, je suis en train de vous dire que nous ne luttons pas seulement contre le terrorisme. Et c'est, je crois, l'erreur qui a été faite depuis des années. On a lutté contre le terrorisme, mais le terrorisme, c'est l'arme qui est utilisée par cette idéologie. Et moi, ce que je veux, c'est que nous luttions contre ceux qui arment les terroristes. Et ceux qui arment les terroristes, ce sont ceux qui défendent cette idéologie totalitaire qu'est l'islamisme.
Marine Le Pen, comment vous faites quand, pour détecter justement ces auteurs, les actes terroristes en amont, on voit que celui qui a perpétré l'attentat à Conflans-Sainte-Honorine s'est plutôt radicalisé via Internet, il n'était pas fiché S. Donc comment on fait pour justement déceler ce qui se passe dans la société?
Pardon, mais moi il me semble que sa famille était tout à fait connue pour être un soutien des terroristes tchétchènes. Et par conséquent, jamais ces gens n'auraient dû atterrir en France, jamais ils n'auraient dû avoir l'autorisation de s'y installer. Le père lui-même avait indiqué qu'il avait été chauffeur terroristes tchétchènes. Donc de quoi parlons-nous?
Les deux derniers
attentats.
Bien
sûr qu'il peut y avoir de temps en temps des gens qui passent au travers du radar. Mais déjà, pour pouvoir avoir un radar efficace, il faut expulser tous les étrangers qui sont convaincus de radicalisme de notre pays.
Alors,
déjà, ça en fera moins à surveiller.
Question,
il faut déchoir de la nationalité tous les binationaux convaincus de radicalisme dans notre pays et les renvoyer dans le pays dont ils ont la deuxième nationalité. Il faut incarcérer les Français qui sont convaincus de soutenir cette idéologie totalitaire. Vous verrez que tout d'un coup, on aura beaucoup moins de gens à surveiller, que donc le travail de nos services de renseignement sera d'autant plus facilité.
Marine Le Pen, on va prendre les choses point par point si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'on fait quand les terroristes sont des Français nés en France?
Je viens de vous le dire. Alors, pour les étrangers nés en France, il y a un article qui s'appelle l'article 411-4 du Code pénal, qui est l'article qui condamne l'intelligence avec l'ennemi. Tous ceux
qui s'opposent à un État, en principe.
Non, pas du tout. Un État ou des organisations.
Des organisations,
il suffit,
mais pas une personne.
Il suffit, non, pas du tout. Il suffit pour le gouvernement français de faire la liste de ces organisations et tous ceux qui ont un quelconque contact avec ces organisations, un contact financier, en font l'apologie, en sont membres, en partagent les options, peuvent être poursuivis pour intelligence avec l'ennemi.
Et pour ceux qui sont nés en France.
Parce qu'ils sont poursuivis pour intelligence avec l'ennemi, ils doivent risquer ce que je vous disais tout à l'heure. Pas l'indignité nationale qui entraîne la dégradation nationale, c'est-à-dire la perte de tous les droits civils, civiques, familiaux, avec des interdictions absolues de gérer quelque entreprise que ce soit, avec des interdictions de se maintenir sur des lieux précis du territoire. C'est une sorte de mort civique. Et je pense que ce serait particulièrement efficace pour empêcher ces gens de pouvoir à nouveau
Marine Le Pen
passer à l'acte ou continuer leur prosélytisme.
Quand ils sont passés à l'acte, quelle doit être la sanction ultime? Vous aviez dit que vous étiez contre la peine de mort, vous êtes prononcé contre la peine de mort. Aujourd'hui, 55% des Français, on nous dit que c'est un record, affirment qu'il faudrait la rétablir. Ils sont 85% parmi vos sympathisants. Est-ce que vous restez sur votre ligne ou vous dites aujourd'hui, vu les circonstances, il faut se rappeler?
Oui, parce que je veux vous dire, ce qui choque profondément les Français, et à juste titre, c'est de voir des gens qui ont commis des actes épouvantables et qui ressortent au bout de 10 ans, 20 ans, Je pense donc qu'il faut les incarcérer à vie. À vie, ça veut dire qu'ils ne sortent jamais. Voilà. Et si on mettait cela en œuvre, peut-être y aurait-il moins de gens qui seraient pour la peine de mort.
Donc il n'y a pas de possibilité de se réinsérer, de faire une forme de mea culpa et de se retrouver.
Ah, mais on peut faire un mea culpa en prison.
Ce que vous dites, c'est une forme de bagne quelque part. C'est-à-dire
à
vie.
Oui, tout à fait. Mais je défends ça sans aucun complexe. Je pense que les gens qui ont commis des attentats terroristes doivent notamment, d'ailleurs pas seulement, mais notamment, doivent rester tout le reste de leur vie en prison et ne jamais, au grand jamais, en sortir. Parce que c'est le moyen de protéger la société de ces gens-là. Je vous rappelle tout de même que M. Molins nous a donné des éléments intéressants en matière de récidive des djihadistes, hein, puisqu'il a indiqué que ceux qui étaient partis sur les théâtres de Syriens, Irakiens et Afghans avaient commis une récidive pour 60% d'entre eux. Eh bien, moi, je pense qu'il ne faut absolument pas prendre le moindre risque dans ce domaine.
M. Molins, qui a été donc procureur sur le parquet antiterroriste de Paris. Amélie Carouer.
Question très simple. Vous estimez que le ministre de l'Intérieur est en dessous de ce qu'il faudrait
parquet faire. National antiterroriste, je vous signale, qui a été conçu par Jean-Paul Garraud, qui est député européen du Rassemblement National, qui pense d'ailleurs qu'on pourrait l'améliorer, notamment en permettant la mise en place de procureurs antiterroristes dans les régions et pas seulement en se limitant à un parquet national.
Estimez-vous malgré tout que le ministre de l'Intérieur est en train d'accélérer le mouvement? On a appris qu'une famille, vous savez, qui avait tondu sa fille, avait été expulsée ce matin. Vous dites, ok, très bien, c'est le signe que les choses sont en train de bouger?
Je ne me contenterai pas de signes. Je l'ai dit de la manière la plus claire qui soit. J'entends avec les députés du Rassemblement national avoir un travail constructif. On va travailler sur cette loi contre l'islamisme, que j'aimerais d'ailleurs appeler loi contre l'islamisme, parce qu'encore une fois, arrêtons les faux-semblants, arrêtons les termes qui sont des termes inappropriés. Le séparatisme n'est qu'une étape, en réalité, de ce que souhaite faire l'islam
vous
politique.
Avez dit que vous voterez la loi.
Voilà. Mais on va essayer de l'améliorer au maximum, sachant qu'elle est, je le crois, tout à fait insuffisante. Voilà, je le dis clairement, évidemment, un pas, c'est mieux que zéro. Mais un pas, quand il faut en faire 1000, c'est évidemment pas suffisant.
Concrètement, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez présidente? Est-ce qu'il faut, par exemple, interdire plus le voile dans l'espace public, aller bien au-delà de ce qui est fait aujourd'hui? Est-ce qu'il faut interdire la construction de mosquées? Concrètement, vous feriez quoi en plus?
Moi, je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public, je l'ai toujours dit. Par conséquent, je ne change pas d'avis. D'ailleurs, je n'ai absolument pas changé d'avis. Vous l'imaginez bien, lorsque nous confrontons nos idées et nos propositions à ce qui se passe dans notre pays, nous apercevons que nous étions parfaitement dans le juste et que même beaucoup de la classe politique, il faut bien dire, nous rejoignent sur les propositions qui étaient les nôtres.
Mais Marie-Mette, sur cette question-là, quand même, sur le voile dans l'espace public, est-ce que du coup, ce n'est pas faire l'amalgame entre islam et islamisme en demandant l'interdiction du voile dans l'espace public? Ça, c'est une question qu'on se pose, puisque vous avez dit « je ne veux pas faire d'amalgame », vous l'avez dit clairement.
Mais
pourquoi? Est-ce que ce n'est pas une manière de le faire?
Je comprends tout à fait que vous puissiez vous poser la question. Mais je crois qu'on se trompe sur la nature de ce qu'est le voile. Le voile, ça n'est pas le choix des femmes de se couvrir la tête, ça n'est pas vrai. Le voile a accompagné la montée de l'islamisme dans notre pays. C'est si vrai d'ailleurs que la première affaire des voiles, c'était Creil en 89. Depuis, on a assisté à une explosion du port du voile, y compris de la part de musulmanes qui, il y a encore quelques années, n'avaient pas le voile. Alors, le voile est une manière pour les islamistes d'œuvrer à une forme d'appropriation visuelle de l'espace. Et en cela, c'est une des armes de l'islamisme dans notre pays. Donc oui, je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public.
Est-ce que vous, présidente, y aurait donc une interdiction de la construction de toute nouvelle mosquée?
Non, mais nous n'avons jamais été pour l'interdiction des mosquées. Nous sommes pour l'interdiction des mosquées cathédrales. Et surtout, nous sommes pour l'interdiction du financement par les contribuables français, par l'intermédiaire des municipalités, notamment des mosquées. Alors, c'est ce qui se fait, hélas, depuis 25 ans. En revanche, je suis pour l'interdiction totale des mosquées islamistes. c'était des mosquées salafistes, des mosquées turques, on aura l'occasion d'en parler, qui font sur notre sol, encore une fois, la promotion de l'islamisme. Mais qu'il existe des mosquées pour que les musulmans puissent aller prier ne pose aucun problème à personne. Encore une fois, ce qui nous pose un problème, c'est l'islamisme. Ce sont les sources de financement de ces mosquées, et notamment les sources de financement provenant d'organisations qui sont islamistes ou d'États qui soutiennent et qui défendent l'islamisme. J'attends encore une fois de voir ce qui va sortir des grandes déclarations que j'ai entendues de tel ou tel ministre.
Amélie Carouer, Bruno Le Maire, vous de la Turquie, mais on vous parle aussi de Jarel Darmanin sur ses propos. Un début de polémique mardi, puisqu'il s'est dit choqué par la vue des rayons communautaires des supermarchés. Vous le rejoignez sur ce point où il va trop loin, où vous dites, comme Richard Ferrand qui est breton, moi je suis breton, je ne suis pas choqué de voir des produits bretons dans mes rayons.
Non, je ne dirais sûrement pas comme Richard Ferrand, ça c'est une certitude, parce que je crois que... Mais je suis très inquiète d'entendre tout ça, parce que je m'aperçois qu'en fait, ils ne maîtrisent pas ces sujets. Voilà. On confond tout, on mélange tout. Je crois pour le coup que M. Darmanin mélange l'islamisme et l'islamisation de notre société. Donc M. Darmanin se dit choqué par le thermomètre. On peut éventuellement être choqué par la fièvre, mais pas par le thermomètre. C'est-à-dire que s'il existe des grands rayons halal dans notre pays, c'est parce qu'il y a énormément d'immigration musulmane qui est entrée au fur et à mesure des années. Et c'est là où, permettez-moi de reboucler avec votre question précédente, la loi, évidemment, qui ne prévoit pas de poser la question fondamentale de l'immigration, n'a pas compris le problème. Elle s'attaque en partie aux conséquences, encore une partie des conséquences, sans s'attaquer à la cause. Alors, donc moi, je suggérerais à M. Darmanin de commencer par accepter l'étiquetage des produits. Parce qu'il y a beaucoup Français qui ne sont pas musulmans et qui mangent des produits, en réalité, qui ont été abattus selon le rite halal et qui sont renvoyés dans la distribution sans que ceci soit indiqué. Donc qu'il commence par faire un étiquetage pour permettre à ceux qui ne sont pas musulmans de choisir leur mode de consommation.
Marine Le Pen,
vous voyez,
pour reprendre cette anaphore, vous, présidente, est-ce que vous interdisez les repas alternatifs sans porc à l'école ?
Mais, enfin, encore une fois, on se pose des questions. C'est quand même étonnant, là, cette manière de voir. Il existe dans... Je ne sais pas, 80... Bon, je ne vais pas donner de chiffres, je vais encore me faire attraper par je ne sais pas qui. Dans une immense majorité d'écoles, déjà, il y a deux choix de repas. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Est-ce que je m'oppose, en revanche, au repas confessionnel ? Oui, évidemment.
Mais vous laissez la possibilité de cette alternative.
Enfin, écoutez, personne n'a envie... Encore une fois, arrêtons de créer des problèmes là où ils n'existent pas. Mmh. Personne n'a envie de forcer des petits musulmans à manger du porc. Ça n'existe pas, ça. Voilà, ça n'existe pas, c'est comme l'islamophobie, ça n'existe pas. C'est une invention, c'est une construction qui a été faite par les islamistes pour accuser tous ceux qui luttaient précisément contre lui et pour les tenter de les mettre au banc. Ça a assez bien marché d'ailleurs, hein, parce que dans la gauche en tout cas, dans la gauche ça a très bien marché.
Vous, président, est-ce que vous remettez un ministère de l'identité nationale comme l'avait fait Nicolas Sarkozy ou vous donnez un autre nom à un ministère de ce type-là ?
Mais je crois qu'il faut qu'il y ait un ministère de l'immigration, oui. Ça paraît être une évidence, parce que l'immigration est un des problèmes majeurs de notre pays, lorsque l'on sait que à peu près 500 000 personnes entrent légalement sur notre territoire, c'est-à-dire sans compter évidemment les clandestins qui entrent ou qui se maintiennent.
On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de ce grand jury de Marine Le Pen. On parlera bien sûr de la situation sanitaire. À tout de suite.
Avec Jouet Club, vivez les émotions du Noël enchanté Disney à Disneyland Paris. Grâce à l'application Jouet Club, chassez les étoiles, tentez de remporter vos invitations magiques pour aller à Disneyland Paris et de nombreux autres cadeaux. Pour participer, rendez-vous dans les magasins et catalogues Jouet Club ou sur jouetclub.fr. Jouet Club ! Jeux sans obligation d'achat jusqu'au 2 novembre.
Chez Harmonie Mutuelle, le pouvoir du collectif, c'est de soutenir les salariés quand ils en ont besoin, comme avec Victor. Pendant ses 6 mois d'arrêt, son entreprise a pu assurer ses revenus et préparer son retour avec un soutien psychologique et même un coach sportif.
Allez Victor, c'est bien.
Découvrez nos solutions de prévoyance pour les entreprises sur harmonie-mutuelle.fr. Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Mutuelle soumise au code de la mutualité et distributrice des offres assurées par Mutex.
la fois DRH et standardiste, il sait tout faire en restant calme. Lui, c'est Alexis. Alexis Lance, artisan acousticien et son nouveau Citroën e-Jumpy 100% électrique et son volume de chargement jusqu'à 6,6 mètres cubes.
Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan. Ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën e-Jumpy est à partir de 259 euros par mois, maintenance comprise.
Citroën. LLD 60 mois, 50 000 km, premier loyer 2829 euros hors taxe, bonus écologique déduit, offre valable jusqu'au 31 octobre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur citroën.fr, équipement selon version.
Odette, 83 ans, nous parle du jour du Seigneur et du legs.
Que l'émission s'arrête ? Oh, ce serait inimaginable. Pour moi, la religion, c'est un héritage. Alors mon héritage, il ira au jour du Seigneur. Je leur ai fait un legs pour que mon patrimoine leur revienne quand je ne serai plus là. Ça ne me rend pas triste, ça me met en joie. Comme ça, d'autres pourront, comme moi, rester en communion avec l'Église grâce à l'émission.
Renseignez-vous sur le legs auprès de Marie-Laure, le jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris.
Il est 12h30. Les infos, Romain Houg. Bonjour Romain.
Bonjour Myriam, bonjour à tous. Des portraits d'Emmanuel Macron brûlés, piétinés, des produits français retirés des rayons. Ça se passe au Proche-Orient depuis hier soir. Un appel au boycott a été lancé au Qatar, au Koweït ou encore en Turquie. Protestation contre la publication de dessins du prophète. Il critique également la promesse du président français de ne pas renoncer aux caricatures de Mahomet après l'assassinat de Samuel Paty la semaine dernière. Une guerre nous est menée et nous devons la mener. Déclaration de Marine Le Pen, invitée du Grand Jury sur RTL. La présidente du Rassemblement National s'est dit pour l'expulsion de tous les étrangers convaincus de radicalisme. Jean-Michel Blanquer promet un cadrage clair pour la rentrée. Le ministre de l'Éducation nationale souhaite ainsi répondre à l'inquiétude des enseignants. Une minute de silence sera notamment observée dans tous les établissements, ainsi qu'une lecture de la lettre aux instituteurs et institutrices de Jean Jaurès. L'épidémie de coronavirus progresse inexorablement en Europe, en Italie. D'abord, le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé la fermeture de cinémas, théâtres comme des salles de sport et des piscines face à l'explosion des nouvelles contaminations. Bars et restaurants devront baisser le rideau dès 18h. En Espagne, également, un conseil des ministres est en cours. Conseil à l'issue duquel un nouvel état d'urgence sanitaire pourrait être déclaré, ce qui ouvrirait la voie à de nouvelles mesures restrictives. Retour victorieux du 15 de France hier soir face au Pays de Galles. Les Bleus se sont imposés 38 à 21 dans un stade de France à huis clos. Cela faisait 7 mois que les joueurs de Fabien Galthié n'avaient pas foulé la pelouse. Prochaine étape, l'Irlande. Dans une semaine, un match en retard du tournoi Destination. Dans un instant, c'est la suite du Grand Jury de Marine Le Pen, présenté par Benjamin Sportouche.
AGP.
Ah, t'as l'air drôlement détendu, toi. Tu t'es mise au yoga ?
Non, même pas.
Mais vas-y, raconte, c'est quoi ?
En fait, je viens de souscrire au contrat de prévoyance CAP d'AGP. Pour me protéger et protéger ma famille en cas de maladie, d'accident, d'invalidité.
Ah ouais, je comprends.
Avec le contrat de prévoyance CAP d'AGP, protégez-vous et mettez vos proches à l'abri des aléas de la vie. AGP, toujours innover pour mieux vous protéger. Rencontrez un agent AXA ou retrouvez-nous sur agp.com. AGP, partenaire d'AXA.
Et si vous choisissiez un forfait pro avec plein de gigas pour gérer votre activité ?
Moi, en tant que cliente Orange Pro, eh ben je peux profiter d'une vraie réduction sur un téléphone dernière génération en faisant reprendre l'ancien.
Et moi, Orange vient directement le récupérer sur mon lieu de travail. Quel gain de temps ! Et le temps, c'est...
De l'argent !
Ouais.
Avec les forfaits Performance Pro et Orange Reprise adaptés aux pros, équipez-vous à moindre coût. Rendez-vous sur orangepro.fr. Vous rapprochez de l'essentiel.
Orange.
Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orangepro.fr.
Vous connaissez Romain Portelas, non ? Mais si, c'est l'auteur du Fakir, le Fakir coincé dans une armoire Ikea. Eh bien, il revient avec Sous le parapluie d'Adélaïde, un suspense encore plus déjanté et jubilatoire. À la fête de la ville, la douce Rose se fait étrangler sous son parapluie par des mains noires. Le coupable est tout désigné. À moins que Romain Portelas ne vienne, de coups de théâtre en coups de parapluie, bouleverser toutes vos certitudes. Sous le parapluie d'Adélaïde, de Romain Portelas, un roman à retrouver chez votre libraire.
Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Invitée aujourd'hui, la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Amélie Carouère de TF1 LCI et Marion Mourgue du Figaro. Marion, nous revenons donc sur la crise qui sévit entre la France et la Turquie à propos de propos justement du président turc.
Oui, la France a rappelé son ambassadeur en Turquie après les propos du président Erdogan qui s'interroge sur la santé mentale d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous soutenez le président de la République ? Est-ce que c'était nécessaire justement de rappeler l'ambassadeur ?
Oui, bien sûr. Évidemment que face à ces multiples provocations de M. Erdogan, car elles se sont multipliées au cours des mois derniers, et face à cette attaque directe du président de la République française, je défends le président de la République française. Le rappel est un geste significatif. On ne peut pas non plus dire que c'est un geste fort, car toute une série de questions se posent. Qu'est-ce que l'on fait avec la Turquie ? Je vous rappelle que nous sommes dans l'OTAN avec la Turquie, c'est-à-dire un pays qui, il y a quelques semaines, a visé, dans un acte d'une très grave hostilité, un de nos bâtiments maritimes, sans que, véritablement, il y ait de réponse à cette agression caractérisée, qui va à l'encontre de la souveraineté des pays qui font partie de l'Union européenne, je pense évidemment à la Grèce, et qui ne cesse de monter en puissance. Donc la première des choses, c'est peut-être se tourner vers l'Union européenne pour l'interroger. Pourquoi l'Union européenne fait preuve avec la Turquie d'une complaisance absolument totale ? Pourquoi est-ce que l'Union européenne finance des milliards à la Turquie en répondant au chantage aux migrants de M. Erdogan ? Est-ce que l'importance de la communauté turque en Allemagne ne pousse pas l'Allemagne, qui est quand même à la manœuvre, je vais quand même évidemment surprendre personne dans le cadre des instances européennes, est-ce que tout ça ne joue pas ? Donc, il faut à un moment donné qu'il y ait un signal qui soit un signal clair.
Vous voulez quoi, des sanctions au niveau européen contre la Turquie
ou je pense qu'il faut d'abord... Mais la première des sanctions, permettez-moi, c'est d'arrêter de leur verser de l'argent. Vous voyez ? Voilà, c'est la première des choses. Car cet argent, je le rappelle, il sort de la poche aussi des contribuables français.
Mais à qui verse-t-on de l'argent, Marine Le Pen ?
On verse de l'argent à la Turquie.
L'Union européenne verse de l'argent à la Turquie ?
Oui, bien sûr. Des milliards qui sont versés à la Turquie dans le cadre d'un chantage que fait la Turquie depuis quelques années, qui consiste à dire « il faut m'accorder des milliards et ainsi j'empêcherai les migrants de se lancer à l'assaut des pays européens ». Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, vous vous en souvenez, il y a eu une crise très grave à la frontière grecque, puisque M. Erdogan, mettant en quelque sorte un début de menace à exécution, a précisément lancé des dizaines de milliers de migrants pour passer cette frontière. Donc est-ce que nous allons supporter ce chantage longtemps ? Et que fait, à quoi joue, si je puis me permettre, l'Union européenne sur ce sujet ?
Alors nous passons à un autre sujet, bien sûr, qui est au cœur de l'actualité.
Au passage, au niveau français, il y a énormément d'associations également turques, pro-turques, qui œuvrent, souvent d'ailleurs au soutien également de l'islamisme.
Alors, vous les interdisez, elles aussi, qu'est-ce qu'on fait ? On
dit une dissolution ? Et que l'on pourrait arrêter aussi de financer, peut-être. Ce serait une bonne chose.
Qui finance, pardon ?
Voilà.
Oui.
L'Union européenne, 36 millions hein, qui ont été accordés à des organisations islamistes turques, mais pas seulement, des communes, des départements, des régions, etc. Vous comprenez, si on veut lutter contre l'islamisme, contre, encore une fois, cette idéologie mortifère, hein, il faut que l'ensemble du paquebot France se tourne vers cette lutte, c'est-à-dire l'éducation nationale, les administrations, la classe politique, qu'on s'attache à tous les aspects, l'aspect du financement, l'aspect de notre diplomatie, parce qu'il faut être raccord avec notre diplomatie.
Mais
si vous voulez, quand par exemple le Qatar, le Qatar supprime sa semaine culturelle française à l'université du Qatar pour exprimer sa réprobation.
Oui, dans le cadre d'appel au boycott de produits français dans le monde arabe.
Voilà. Bon. Et quand on sait que le Qatar bénéficie de conventions fiscales en France qui sont absolument extraordinaires du droit commun, ils sont pour partie les seuls, notamment en matière de fiscalité sur les dividendes, les résidents qataris ont le droit de ne pas payer en France, mais ont le droit de payer au Qatar selon la législation qatarie. Impôt zéro. Bon, est-ce qu'on ne peut pas commencer, encore une fois, par dénoncer ces conventions? Mais j'ai 1000 exemples à vous donner de ce type. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas de politique cohérente si on ne veut pas chercher absolument partout, dans toutes les forces administratives, nationales, les forces vives de notre pays, les moyens de lutter contre le fondamentalisme islamiste.
Venons-en à la situation sanitaire en France. Pas d'amélioration dans les hôpitaux avec plus de 45 000 nouveaux cas qui ont été enregistrés hier de Covid-19 en 24 heures. Un nouveau record, tandis que la pression s'accentue encore en réanimation. Amélie Carouère.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, dit quoi qu'on fasse, ça va s'aggraver. Vous seriez au pouvoir aujourd'hui, vous reconfineriez la France, tout ou partie du pays?
Non. D'abord, on peut être le meilleur prévisionniste du monde. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Vous voyez, personne ne peut faire de miracle. Quand on a pris des décisions trop tardives, quand on n'a pas anticipé, quand on n'a pas prévu, eh bien, à un moment donné, il est trop tard pour les prendre.
Donc on ne peut plus inverser
la courbe. C'était vrai pour la première vague, c'est vrai pour la seconde. Qu'est-ce qu'on peut constater ? Parce que certains ont été compréhensifs à l'égard des erreurs majeures du gouvernement dans l'organisation de la lutte contre la première vague. Mais là, on est à la deuxième. Et on aurait pu se dire, tiens, peut-être que les leçons ont été tirées de la première et que un plan très précis, gouvernemental, de prévention de la pandémie, d'organisation des services qui auraient à faire face à une deuxième vague aurait pu être fait. Zéro. Je l'ai demandé il y a un mois au Premier ministre, je l'ai redemandé deux fois depuis, j'ai reçu une quinzaine de fiches techniques. Pour vous donner un exemple, pour la pandémie grippale, le plan gouvernemental stratégique, il fait 74 pages. Eh bien, il n'en existe pas pour le plan Covid. Et c'est d'ailleurs ce que disait le syndicat des médecins généralistes qui, le 10 septembre, a fait une déclaration en disant il n'y a pas de stratégie face au Covid. Nous sommes perdus, nous n'avons pas de consignes, nous ne savons pas quoi faire.
Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, Marine Le Pen, justement pour endiguer cette deuxième vague? C'est trop tard? On dit c'est trop tard?
Ah oui, c'est trop tard. Monsieur, mais il y a des choses qui sont irrattrapables. Je suis désolée de vous le dire. Je sais que c'est brutal.
Monter.
Je sais que c'est brutal, mais c'est ainsi. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
L'immunité,
on regarde que sur 131 pays, une grande étude qui a été publiée par le Lancet, qui est un grand journal médical, démontre que les trois choses qui sont efficaces ou qui ont été efficaces pour lutter contre l'épidémie, c'est la fermeture des écoles, c'est l'interdiction des grandes manifestations et c'est le télétravail. Donc il faut déjà, on s'interroge, de savoir pourquoi est-ce que les universités, notamment, ne sont pas passées en visio, alors que s'il y a vraiment un enseignement qui le permet, c'est bien celui qui est délivré dans les universités. On peut évidemment s'interroger sur la maîtrise de nos frontières. Rien n'a été fait dans le domaine des frontières, ni pendant la première vague, ni pendant la seconde. Les pays surveillent leurs frontières, nous, tout est grand ouvert. Il suffit de demander à n'importe qui a voyagé autour de vous dans les dernières semaines, ils vous diront qu'il n'y a rien.
Mais quand vous suivez Marine Le Pen, ça veut dire
pas de surveillance.
Est-ce que le couvre-feu est légitime en ce moment ou pas? Ou est-ce que vous le trouvez superfétatoire?
Honnêtement, je ne suis pas sûre que le couvre-feu dans les restaurants ait une quelconque efficacité. En tout cas, je n'ai pas d'éléments scientifiques pour me le dire. Voilà. Je n'ai pas d'éléments scientifiques pour me le dire. Mais peut-être ai-je moins d'informations que le gouvernement, qui, il faut bien dire, est très radin pour les rendre publics. Bon.
Mais
encore une fois, je ne conteste pas les décisions qui sont prises par le gouvernement. Les choses sont très claires. Le gouvernement gouverne. Tout ce que je demande au gouvernement, c'est de faire en sorte qu'à la sortie de ce couvre-feu, il n'y ait pas de restaurateurs qui mettent les clés sous la porte. Voilà, c'est clair ça. C'est-à-dire que il peut y avoir des interdictions administratives d'exercer, c'est le cas avec le couvre-feu, mais il faut absolument mettre en face de cela les moyens financiers pour soutenir à tout prix nos indépendants, nos TPE, nos PME, qui aujourd'hui sont en train de recevoir les impôts et les charges qui ont été reportés, à payer hein, bien sûr, les impôts et les charges qui n'ont été que reportés pendant le confinement.
Sur le reconfinement, Marion Mauve.
Il faut aller vers un reconfinement, en tout cas pour les plus fragiles, les seniors, les diabétiques, comme le demandent certains professeurs médicaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut prendre cette décision pour les jours à venir?
Non, je ne le crois pas. Je pense que les personnes âgées et les personnes qui ont éventuellement des morbidités sont assez grandes et adultes pour comprendre qu'il faut qu'elle prenne des mesures qui soient des mesures de protection particulière. Voilà. En revanche, il n'est pas impossible que le gouvernement fasse le choix d'ici, face à, évidemment, l'aggravation spectaculaire des cas, de faire éventuellement des reconfinements partiels, c'est-à-dire ou tournants. Une ville, un quartier,
Vous ne vous y opposeriez pas, monsieur, si c'est le
non,
cas
je ne m'y opposerai pas.
Non, parce que vous dites que la stratégie n'est pas bonne,
donc
on se pose la question là-dessus.
Je dis que l'Italie, depuis la première vague, a embauché 14 700 infirmières. Combien en avons-nous embauché? Qu'ils ont embauché 7 000 médecins. Combien en avons-nous embauché? Qu'ils ont créé des lits de réa supplémentaires. Il y en a actuellement 30% de moins lors de la première vague. Donc il n'y a pas eu d'anticipation. Alors vous êtes en train de me dire, est-ce qu'on peut quand même régler le problème quand il n'y a pas eu d'anticipation? Ma réponse, bah, hélas...
Prenons un exemple très concret sur l'immigration. Vous disiez, en première partie, on y revient, vous voulez stopper l'immigration. Mais est-ce que vous seriez d'accord, si vous étiez aux responsabilités, d'autoriser une immigration sanitaire, c'est-à-dire faire venir, puisque nous en avons insuffisamment en France, du personnel soignant venant d'autres pays européens?
Oui, bien sûr. Et notamment, bien sûr.
Ça,
bien
vous
sûr.
Le permettriez?
Mais évidemment que oui.
Et là, vous demandez à ce que ce soit le cas.
Enfin, écoutez, soyez encore une fois conscients que l'immigration, nous la combattons parce qu'elle est anarchique et excessive. Et nous l'avons toujours dit. Et c'est contre celle-là qu'il faut évidemment prendre des mesures. Si demain, ça, ce dont vous parlez, c'est de la coopération internationale, mais bien sûr...
De tous les pays, on pourrait avoir des médecins venant des pays du Maghreb, par exemple, ce qui a déjà été le cas.
Pourquoi pas, mais je crains qu'ils en aient besoin, en l'occurrence, voyez-vous. Mais que l'on puisse se tourner vers des pays européens en demandant, comme le fait d'ailleurs, je crois, Philippe Juvin, me semble-t-il, hein, qu'il puisse y avoir des équipes des pays européens qui puissent venir pour nous aider dans le moment difficile que l'on va vivre et que, accessoirement, le moment venu, s'ils se retrouvent eux-mêmes dans une situation difficile, des équipes de médecins français puissent y aller. C'est de la coopération internationale. Il n'y a aucun problème pour ça, bien sûr. Si on avait pris les décisions au moment où il le fallait, on n'en serait pas à réfléchir à ce type de solution.
La prolongation de l'état d'urgence sanitaire, ça a été voté hier. Quelle a été votre position et que faut-il aussi en tirer comme conclusion, le fait d'avoir à rétablir cette prolongation?
Eh bien, nous n'avons pas participé au vote pour une raison très simple, c'est que nous ne sommes pas contre la loi d'urgence sanitaire. Nous pensons qu'elle peut se justifier, mais ce que nous n'admettons pas, c'est qu'on ne la repropose pas au contrôle du Parlement tous les mois. Je veux dire, l'idée de prendre comme ça des mesures d'urgence pour 3 mois, pour 6 mois, je trouve que c'est inadmissible, c'est assez antidémocratique parce qu'encore une fois, le Parlement doit pouvoir tous les mois vérifier si la situation nécessite ces mesures d'urgence. Et on ne nous permet pas de le faire.
Une question avant d'en venir au régional, Marine Le Pen. Certains de vos proches vont assister au dernier meeting de Trump, qui est donc en campagne pour sa réélection. Est-ce que cela signifie que ça reste un modèle pour vous aujourd'hui, le président américain?
Non, le président américain n'est pas
Jordan Bardella va y aller, notamment votre numéro 2.
Oui, très bien, mais c'est intéressant d'aller dans d'autres pays pour voir comment les choses se déroulent. Je pense qu'au contraire, ça ouvre l'esprit. Non, ça n'est pas un modèle, même si un certain nombre de mesures qui ont été prises par M. Trump, avec un certain succès, il faut quand même l'admettre, allaient plutôt dans le sens de nos propositions. Je pense notamment à l'arrêt de ce multilatéralisme, au refus de mener des accords commerciaux autrement que d'État à État pour pouvoir défendre ses intérêts. C'est ce qu'il proposait. Incontestablement, il reste des divergences majeures entre nous et le président Trump. Et évidemment, un sujet que j'ai eu l'occasion d'évoquer très souvent sur votre plateau, qui est l'extraterritorialité du droit américain, contre lequel, vous savez,
vous
je me bats depuis longtemps.
Mais vous souhaitez sa réélection ou pas, Marine Le Pen?
Pardon?
Vous souhaitez la réélection de Donald Trump?
Je pense que pour la France, la réélection de Donald Trump serait plus positive que l'élection de M. Biden. Oui.
C'est dit. Alors, nous en revenons justement à la situation sanitaire et son impact sur les élections à venir. Marion Mourgue.
Marine Le Pen, est-ce que vous pensez que la crise sanitaire qu'on vit justifie de reporter les élections régionales de mars prochain, ou est-ce que vous trouvez, comme certains commencent à le dire, que cette crise est utilisée par le gouvernement pour justifier un report à des fins plutôt électoralistes?
Non, je pense que le report est justifié si ce report s'effectue en juin. Voilà. Il est raisonnable. ce report s'il est un report de 3 mois. S'il est un report plus éloigné, alors évidemment, il s'agira là d'une volonté d'influer sur les élections.
Et alors justement, dans le cadre de ces élections régionales, Marine Le Pen, vous, quelle est votre... vos ambitions électorales, quelles sont, est-ce que vous pensez que vous pourrez pouvoir décrocher plusieurs régions?
Je le souhaite. Je le souhaite, bien sûr. Vous savez, nous nous présentons aux élections pour gagner. Enfin, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais il est toujours bien de le redire.
Quelle région visez-vous, Marine Le Pen?
Mais nous verrons, car vous le savez...
Le Nord face à Xavier Bertrand,
par exemple,
c'est possible.
Par exemple, la PACA, les deux régions que nous avons failli gagner la dernière fois, évidemment, sont des régions auxquelles nous pensons, mais on peut avoir des surprises, car il peut y avoir des triangulaires, des quadrangulaires qui nous permettraient gagner des régions. Mmh. Bien sûr, nous partons pour gagner, nous nous engageons dans ces élections cantonales et départementales avec un projet qui est un projet localiste, vous le savez, que nous allons évidemment développer au fur et à mesure de la campagne, mais il faut qu'on puisse faire campagne. Et si les élections, c'est vrai, ont lieu en mars, eh bien, très certainement, nous serons très contraints dans notre campagne, et ça n'est pas la perfection sur le
Donc
plan
la,
démocratique.
Donc la dernière limite pour les faire, c'est quand?
Juin, je pense.
Juin. On passe à Question Express.
Le Grand Jury, Question Express.
Marine Le Pen, pour ou contre l'allongement du délai d'IVG de 12 à 14 semaines?
Contre, résolument contre.
Pour ou contre le congé paternité porté à 28 jours?
C'est pas un buzz.
Non, mais je vous pose la question. Là, pour le coup, c'est
on peut s'expliquer. Parce que de 12 à 14 semaines, l'embryon devient un fœtus. Et le geste qui est effectué par le médecin est un geste qui est d'une nature différente dans ses dangers, dans ses risques, mais aussi dans l'impact psychologique et pour la femme et pour le soignant. Et par conséquent, nous ne voyons pas du tout à quoi correspond ce désir d'allongement, si ce n'est en réalité à une volonté idéologique portée par un certain nombre, qui vous disent d'ailleurs que dans leur esprit, il faudrait supprimer tout délai. Donc il faudrait pouvoir effectuer ces IVG à 4 mois, 5 mois, 6 mois ou 7 mois. Évidemment, nous sommes opposés à cela.
Vous êtes donc expliqué. Pour ou contre le congé paternité porté à 28 jours?
Il n'est pas obligatoire, me semble-t-il.
7 jours sont obligatoires.
7 jours sont obligatoires. Écoutez, si les papas ont envie de pouponner, la maman que je suis ne
vous
peut
dites,
pas s'y opposer. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir parfois avoir un peu d'aide avec mes 3 enfants, vous savez, qui avaient moins d'1 an.
Pour ou contre, Marine Le Pen, la fin du concours d'entrée à Sciences Po?
Et pourquoi supprimerait-on ce concours? Quel est l'objectif?
Justement, visiblement, pour faire en sorte que ce ne soit pas une barrière d'entrée pour certains.
Je veux dire, s'il s'agit de Sciences Po, je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à changer que cela.
Vous serez rebuté par
Voyez-vous,
le concours.
Je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à changer, et notamment imprimer dans cette école une diversité des opinions qui évite que ne sortent de Sciences Po des gens qui parfois se plaignent d'avoir été victimes d'un véritable lavage de cerveau gauchiste.
Marion Mourgue.
Une question sur 2022. Certains dans vos rangs commencent à dire que ça serait nécessaire que ce soit votre dernière campagne, puisqu'il n'y a pas le même engouement. Est-ce que pour vous, vous vous engagez en vous disant que ce sera finalement votre dernière campagne?
Non, je ne m'engage à rien du tout. Rien du tout, parce que je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Je crains, hélas, que l'avenir ne nécessite plus que jamais notre action, mais surtout, je ne l'envisage pas pour une raison simple, c'est que j'envisage de gagner en 2022.
Mais si vous
et accessoirement, je souhaiterais être réélu 5 ans plus tard, car je pense qu'il y a tant de choses qui sont nécessaires pour le pays que 10 ans seront très certainement nécessaires pour le faire.
Est-ce qu'il faut changer la durée du quinquennat
Oui, je le crois.
Combien?
Moi, j'étais pour un septennat non renouvelable.
Vous l'êtes toujours?
Toujours.
Donc si vous êtes élu, vous le mettez au référendum et vous ferez un septennat?
Oui, je le soumettrai, je pense. Je pense qu'il faut faire un septennat non renouvelable. Un septennat... Ça permet de mettre en place les mesures les plus essentielles. Et puis, le non renouvelable, ça évite de ne penser à sa réélection à la moitié du mandat.
Avant de venir à la question, rapidement, une question d'Amélie Carouer.
Un sondage BVA montre que 16% des Français déclarent qu'ils seraient certains de voter pour vous. 26% pourraient l'envisager. 57% l'excluent. Comment vous l'expliquez, si vous cherchez à le faire? Encore une fois, votre nom, votre image.
D'abord, permettez-moi de vous dire que c'est un potentiel de vote qui est très important. Bon, ça c'est déjà la première des choses. Deuxièmement, ça veut dire que nous avons encore du travail. Moi, j'ai pas de problème. Je vais faire ça tous les mois, tous les jours, toutes les heures qui vont me séparer de la présidentielle. C'est expliquer aux Français ce que nous voulons faire. Moi, je pense que 95% des gens ne partagent pas nos idées de bonne foi, parce qu'en réalité, ils n'en connaissent que la caricature qui leur en est présentée. Donc, ça n'est pas un souci pour moi de les entendre dans leurs interrogations et d'essayer de leur répondre le plus précisément possible pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont bien souvent une image de nous, ceux qui nous, encore une fois, ceux qui nous craignent ou ceux qui n'adhèrent pas, qui est très éloigné de la réalité.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Marine Le Pen. En février dernier, ici au grand jury, vous étiez contre la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ce débat a été remis sur la table avec l'assassinat de Samuel Paty, du professeur. Et donc au regard de cette affaire, est-ce que vous changez d'avis et vous estimez qu'il faut mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux ?
Vous voulez dire que le père de famille qui donnait son propre numéro de téléphone sur les réseaux devrait me pousser à réclamer la suppression de l'anonymat ? Non, je ne suis pas pour l'interdiction de l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est un faux débat. En l'occurrence, il est extrêmement facile de connaître l'identité d'une personne qui est derrière un compte anonyme. Et j'aimerais bien que la justice s'y penche d'ailleurs, parce qu'il y a 30 000 personnes là qui devraient être poursuivies au moment où je vous parle. Ce sont les 30 000 qui ont menacé une jeune mineure de 16 ans, Mila, qui l'ont menacée de mort, qui l'ont menacée de viol. À ce que je sache, une seule personne a été traduite devant un tribunal. Donc commençons par récupérer tous les comptes et tous les messages de ceux qui se sont réjouis de la décapitation de Samuel Paty, de ceux qui ont menacé Mila, de ceux qui menacent des élus qui luttent contre l'islamisme, et que la justice fasse son travail, c'est-à-dire qu'elle les poursuive et qu'elle les condamne. Et là, on aura avancé, parce que pour l'instant, dans ce domaine, je n'ai absolument rien vu.
Autre question.
Oui, autre question. Le maire de Béziers, Robert Ménard, donc, qui est proche du Rassemblement National, a placardé dans sa ville...
Ah, vous trouvez qu'il n'est pas si proche que ça ? C'est vrai,
écoutez,
c'est vrai qu'il
pas,
a dit que si vous étiez au second tour de la présidentielle,
j'entends
c'était l'assurance
ces déclarations,
que Emmanuel Macron soit réélu.
Je le trouve de moins en moins proche, mais peut-être que les choses changeront.
Vous pensez qu'il pourrait être candidat à la présidentielle ?
Ah, ça m'a pas traversé l'esprit, non. Ça ne m'a même pas effleuré. Mais,
parce que vous allez convoquer un congrès, il pourrait s'y présenter pour être candidat.
Il ne pourrait pas, parce que pour se présenter au congrès, il faut être adhérent du Rassemblement National.
Donc,
et il ne l'est
pas.
Il faut
qu'il le soit. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré le général De Villiers, justement ?
Non, jamais.
Est-ce que vous avez l'intention de le faire ? Donc,
je pourrais le faire, mais je ne vous cache pas que ce que je lis de ces propositions ne m'apparaissent pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire pour lutter contre l'islamisme. Tout ça me paraît plein de bonnes intentions, mais je ne suis pas sûre que les bonnes intentions soient aujourd'hui suffisantes.
On revient sur Robert Ménard et Béziers.
Oui, donc Robert Ménard qui a placardé dans les affiches de sa ville à Béziers une caricature de Cabu, donc en hommage au professeur Samuel Paty, mais Charlie Hebdo n'a pas du tout apprécié cette campagne et a réagi sur Twitter en disant « C'est dur d'être aimé par Robert Ménard et par l'extrême droite ». Qu'est-ce que vous répondez à Charlie
Hebdo ? Je ne suis pas l'extrême droite.
Vous n'êtes pas pour vous. Alors, vous. Enfin, tout à l'heure, vous nous disiez.
Ah bon, parce
non, parce que tout à l'heure, quand on est Fabien Roussel disait.
Parce que vous.
C'est l'extrême droite qui nous a.
Là, vous avez répondu à la question.
Qui a tagué.
Je vous ai dit qu'il avait le cuir fin, c'est tout. Je réfute fondamentalement.
Vous n'êtes pas
senti visé. Réfute fondamentalement cette argumentation, cet argumentaire d'extrême droite. Vous savez, l'extrême droite, c'est comme l'islamophobie. C'est un terme qui a été utilisé en réalité par nos adversaires politiques pour nous salir.
Toute dernière question.
Oui, le gouvernement a lancé la nouvelle version de l'application Stop Covid, donc tous anti-Covid. Est-ce que vous l'avez téléchargé ou est-ce que vous comptez le faire ?
Non, je ne l'ai pas téléchargé.
Pourquoi ?
Je vais regarder de près comment tout ça fonctionne.
Pourquoi vous l'avez
compte
pas
tenu...
fait ?
Et vous l'avez téléchargé ? Non, bon, allez.
Si, mais bon, enfin, c'est pas
d'accord.
Ça. Ça n'intéresse pas les Français.
Vous avez montré ça en sortant. Vous avez du coup me montrer ça en sortant du plateau. Comme ça, vous pourrez me montrer comment ça fonctionne.
Je ne me substituerai pas aux gouvernantes. Merci Marine Le Pen. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine. À la semaine prochaine.